Je vais prier. Père, merci pour ta parole. Donne-nous de l'écouter. Ouvre notre cœur, Père, pour que nous puissions recevoir cette parole et la vivre. C'est notre prière en Jésus. Amen.
Amen.
Sonia demande à son ami, « Richard, est-ce que tu vas à l'église demain ?»« Oh non, je ne pense pas. Ben, j'ai prévu autre chose ce dimanche. »« Ah, ça ne va pas gêner les autres si tu es absent ?»« Ah, tu sais, » répond Richard, « ils peuvent très bien faire sans moi. Je n'ai pas de responsabilité particulière à l'église. J'aime bien le culte, mais je suis plus spectateur qu'autre chose. Que je sois là ou pas, ça ne change pas, ça change pas grand-chose. » Sonia n'est pas tout à fait d'accord, mais elle ne sait pas exactement quoi répondre. Dans nos cultes, ces derniers temps, nous avons suivi le début de cette lettre ancienne, écrite par l'apôtre Paul au 1er siècle, aux chrétiens de la ville d'Éphèse et probablement à d'autres chrétiens de la région. Et dans la première partie de la lettre, les trois premiers chapitres, Paul a expliqué le grand plan de Dieu. Dieu qui va unir toutes choses sous l'autorité de Jésus-Christ. Il a expliqué comment la mort et la résurrection de Jésus permet à nous, qui sommes pécheurs, qui méritent le jugement de Dieu, d'être sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Il a expliqué que quand Jésus est mort pour nos péchés, cela a détruit la séparation qui existait entre les juifs et les non-juifs, parce que maintenant, tous les deux peuvent venir à Dieu de la même manière, par la foi en Jésus. Et ce secret, Paul dit, qui est maintenant révélé, que les juifs et les non-juifs puissent faire partie du même peuple de Dieu. Paul dit, je suis le messager, je proclame cela, c'est la raison pour laquelle je suis en prison, parce que la plupart des juifs, ils n'aiment pas ce message-là. Et cette semaine, nous arrivons à un tournant dans la lettre. Paul commence à expliquer les implications pratiques pour les Éphésiens. Il ne veut pas simplement leur donner des informations sur Dieu, mais il veut répondre à la question, et alors ? Et alors ? Quelle différence ça va faire de ma vie si je suis chrétien? Comment ça va impacter mes relations avec les autres personnes dans mon église ou ma relation de couple ou avec mes enfants ou avec mon patron? Comment le grand plan de Dieu, ça doit changer ma façon de vivre dans ce monde? Et ce sont les questions à laquelle Paul commence à répondre à partir du chapitre 4. Alors, commençons par cette partie que nous venons d'entendre. Et nous voyons que Paul, il commence par l'église locale. Quelles sont les conséquences de l'évangile pour la vie de l'église locale? Et donc, Paul a des choses à dire qui nous concernent, nous qui formons l'église de Paris-Cardinay. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce que Dieu veut-il nous enseigner à travers ce texte? La première chose que je vois, conservons l'unité que nous avons en Jésus. Première partie, les six premiers versets. Au premier verset, Paul le demande pour la première fois dans la lettre de faire quelque chose. À la lumière de ce qu'il vient d'expliquer, Paul leur demande de se conduire, littéralement de marcher d'une manière digne de leur appel. Dieu les a appelés à faire partie de son peuple. Son peuple, ils sont réconciliés, des gens très différents, unis en Jésus. Et Paul dit, alors, comportez-vous de façon cohérente avec ce que Dieu fait. Ne faites pas ce qui serait contradictoire à cette réconciliation, à cette paix. Et pour les plus explicites, au verset 2, ce qui convient, c'est l'humilité, ne pas se considérer plus important que les autres, la douceur, ne pas brusquer les autres, la patience, ne pas s'irriter facilement, supportez-vous les uns les autres avec amour. Et on peut imaginer la différence entre un groupe où ces qualités sont présentes et un groupe où elles ne le sont pas. Paul dit, vous avez reçu quelque chose de très précieux, l'unité de l'esprit, une paix qui vous lie les uns aux autres. Alors, faites tous vos efforts pour garder cette unité, pour rester en paix. C'est intéressant, Paul il ne demande pas de faire un effort pour être uni. Il ne le demande pas de créer cette paix. Paul ne dit pas, vous êtes très différents, c'est vrai, mais essayez de mettre de côté vos différences et travaillez ensemble. Non, Paul dit, pensez à ce que vous avez déjà en commun. Vous constituez un seul corps, vous avez un seul Saint-Esprit, vous avez une espérance, un seul Seigneur Jésus, une seule foi chrétienne, un seul baptême, un Dieu et Père de vous tous. Si vous avez déjà tout ça en commun, vous n'avez pas à construire l'unité. Vous l'avez déjà. Il suffit d'agir d'une manière qui la garde au lieu de l'abîmer. Et cela va dépendre de notre attitude dans nos relations les uns avec les autres. C'est un peu comme dans ma famille. Les relations que j'ai avec mes parents, avec mon frère, avec ma sœur, moi je n'ai pas à créer ces liens familiaux. D'accord ? Ils existent déjà. Je suis déjà fils de mes parents, je suis déjà frère de mon frère et ma sœur. Mais je peux faire un effort à conserver cette unité familiale ou pas. Si je suis toujours en train de me comparer avec mon frère en disant « moi je suis bien et lui il est nul », si je ne suis pas patient avec ma mère, quand je lui parle au téléphone, quand je m'énerve chaque fois qu'on discute d'un sujet, ben, l'unité de la famille, ça va prendre un coup. Et Paul dit aux chrétiens, la base de votre unité est déjà là. Tout ce qu'il vous faut pour la paix, Dieu vous l'a déjà donné. Faites tout ce que vous pouvez pour agir d'une manière qui est digne de ce que Dieu fait, de ce qu'il est en train de faire dans l'Église, plutôt que le contraire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Moi, je suis reconnaissant à Dieu parce que, à ma connaissance, les relations ici sont plutôt harmonieuses. Je ne suis pas conscient des conflits ouverts entre les membres de l'Église, c'est une bénédiction. Ce n'est pas le cas pour toutes les Églises. Mais soyons honnêtes, il y a des personnes avec qui on s'entend mieux que d'autres. Dans une Église qui est composée de pécheurs, il y aura des offenses. Il y aura des torts, c'est inévitable. Il y aura des moments où notre patience sera mise à l'épreuve. Il y aura des occasions où nous aurons à supporter quelqu'un d'autre dans l'amour. Et peut-être que ça demande un effort. Peut-être que c'est déjà le cas. Et je pense que ce que Paul nous dit, pour nous aider, quand nous sommes dans ces situations où il est tentant de plutôt de creuser les différences, tentant de penser « je ne suis pas comme lui, je ne suis pas comme elle ». On se souvienne que si nous sommes chrétiens, alors nous avons le même Père, nous avons le même Seigneur Jésus, nous avons le même Saint-Esprit, nous avons la même foi, nous avons reçu le même baptême, nous avons la même espérance, nous faisons partie du même corps. Alors comment dois-je me comporter ? vers cette personne, quand je considère comment Dieu nous voit, tous les deux, n'est-ce pas avec humilité, patience, douceur? Comment puis-je justifier une attitude, des paroles, des actes qui aggravent les tensions, qui nourrissent l'amertume ou qui laissent courir des rivalités inutiles? Et donc une question que l'on peut se poser honnêtement, vis-à-vis de qui dans l'Église Dieu m'appelle-t-il à changer d'attitude? De quoi dois-je me repentir pour conserver cette unité que Dieu nous a donnée en Jésus? Donc ça, c'est la première chose que nous voyons. Étant donné l'unité que nous avons en tant que chrétiens, adoptons une attitude envers les autres qui vise à conserver, à garder cette unité que Dieu nous donne. Mais Paul continue en disant que l'unité dans le corps du Christ ne veut pas dire qu'il n'y a pas de diversité ou de différence. Bien le contraire, il dit « Christ n'a pas donné à chacun le même rôle à jouer dans son œuvre ». Et ça, c'est la deuxième chose que nous voyons. Jésus a donné des dons à son Église. Et là, nous sommes dans les versets 7 à 12. Alors, parfois, la logique n'est pas très facile à suivre. Qu'est-ce que fait Paul ici? Il cite le psaume 68, un cantique de David, où Dieu est décrit comme un puissant guerrier qui triomphe sur ses ennemis. Et Paul, il prend un verset de ce chant, il l'applique à Jésus, en disant, quand Jésus est monté, quand il est monté au ciel, en fait, c'était un mouvement victorieux. Et il explique que si Jésus est monté, c'est parce qu'il avait déjà descendu sur la terre, quand il fut conçu dans le ventre de Marie, quand il a pris la nature humaine, et c'est ce même Jésus qui est monté au ciel après sa résurrection. Et dans ce mouvement de victoire, Jésus a donné, a fait des dons, il a fait des cadeaux à nous, les êtres humains, aux membres de son Église. Et quels sont ces cadeaux? Verset 11 le dit. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'Évangile et d'autres encore comparables à des bergers comme enseignants. Les cadeaux que Jésus a fait, ce sont des personnes, des gens avec des rôles particuliers, des capacités particulières à servir son Église d'une certaine manière. Alors les deux premiers qu'il nomme, les apôtres et prophètes, ont posé le fondement de l'Église. Plutôt au chapitre 2, verset 20, Paul a dit que l'Église est bâtie et fondée sur les apôtres et prophètes. Après ces deux types de ministères, Paul mentionne des évangélistes ou des prédicateurs de l'Évangile, donc ceux qui ont un rôle à annoncer la bonne nouvelle de Jésus sous diverses formes, et ensuite des enseignants. Le mot pasteur ou berger, ceux qui prend soin des églises locales, qui prend soin des membres, qui veillent sur le troupeau. Et ce que tous ces ministères ont en commun, c'est qu'ils sont basés sur la parole de Dieu. Les dons que Jésus fait à son Église sont des personnes qui sont capables de transmettre, proclamer, enseigner la parole de Dieu, le message de l'Évangile. Jésus, mis par écrit dans le Nouveau Testament. Donc Jésus a fait ses dons à son Église, mais pourquoi? Dans quel but? Et ça, c'est la dernière partie, troisième et dernière partie, la croissance vers la maturité. Regardez avec moi les versets 12 à 16. l'unité dont Paul parle, cette paix, ce n'est pas statique. Vous savez, quand on prend une photo de groupe, et il y a beaucoup de personnes, on est là, ici, on sourit, et puis on reste comme ça en attendant la prise de photo. Personne ne bouge! Ça va gâcher la photo! D'accord? Paul dit, l'unité dans l'Église, garder l'unité, c'est pas rester figé sur place comme ça. Personne ne bouge. Ça ne veut pas dire être immobile, être figé. Paul décrit l'Église comme une entité qui se développe, qui est en croissance, qui se construit. Il dit que l'Église, c'est comme un corps et c'est comme un bâtiment, comme un édifice. Comme un corps, l'Église doit croître pour arriver à la maturité. Comme un bâtiment, l'Église doit se construire jusqu'à son achèvement. Et les deux images sont complémentaires. Paul passe facilement de l'un à l'autre, corps, bâtiment, croître, se construire. Et quel est le but de cette croissance, de cette construction? Paul le dit au verset 13, « Ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. » L'unité, on nous a déjà dit que l'unité nous est donnée, nous avons un seul Seigneur Jésus, un seul Père, etc. Mais il y a une unité qui est à développer, l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu. Ça, c'est une unité dans laquelle on peut croître. L'unité, la maturité, la plénitude. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? À quoi ça ressemble une Église qui tend vers cette unité, cette maturité, cette plénitude? En fait, Paul l'explique au verset 14 en contrastant une église mûre avec une église qui manque de maturité. Et regardez comment il le dit. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements. Je ne sais pas si, juste pour rigoler, vous avez déjà convaincu un petit enfant de quelque chose qui est évidemment faux. Peut-être c'est que moi, vous avez déjà fait ça? Vous avez déjà dit à un enfant de 2 ans, normalement pas son propre enfant, normalement l'enfant de quelqu'un d'autre. Mais tu sais, la lune, elle est faite de fromage, fromage bleu. Et dans la lune, il y a des petites souris qui habitent. On creuse des tunnels. Il y en a des milliers et des milliers. Ouais, ils sont trop petits pour voir à l'œil nu. Quand on regarde la lune, on ne voit pas les souris, mais elles sont là. Vous avez déjà fait ça? Normalement, on s'excuse auprès des parents. On dit, oui, donc c'était juste... Alors... Peut-être que je dois me repentir, demander pardon. Il est possible de tromper un petit enfant parce qu'ils ont tendance à croire ce qu'ils leur disent des adultes. C'est pas mauvais. Et ils n'ont pas encore assez d'expérience pour filtrer des informations et pour tilter quand quelque chose n'est pas vrai. Avec les enfants, c'est plutôt mignon. C'est un signe de leur innocence, quelque part, ils ne sont pas encore cyniques au point de dire « Ah oui, c'est ça. » Ils disent « Ah bon? Ah d'accord, je ne savais pas. » Avec les enfants, c'est mignon. Vous imaginez un adulte qui soit aussi crédule? Un adulte qu'on pourrait faire croire à n'importe quoi? Ce serait catastrophique. Un adulte qui serait totalement vulnérable à être exploité, à être manipulé. Et là, c'est pas mignon, c'est pas joli, c'est plutôt grave. Et Paul dit, c'est ça une église qui manque de maturité. Il y a quelqu'un qui arrive, qui dit quelque chose, et tous les membres de l'église, ah oui, oui, d'accord, ah bon, je savais pas. Ils sont comme des petites barques qui c'est pas eux qui dirigent, ils sont ballottés ici et là, emportés. Aucun ancrage, ils peuvent être emportés loin, dans n'importe quel sens. Il suffit qu'il y ait quelqu'un un peu habile, quelqu'un qui sait bien parler. Voilà, l'Église est emportée. Et Paul dit, vous avez besoin de grandir dans la maturité pour que cela n'arrive pas. J'imagine que Paul, il a déjà vu ça arriver. Il a dit non, grandissez. C'est pas une petite chose, c'est pas facultatif, oui, pour les églises très motivées. Paul dit non, c'est une question de survie spirituelle. Donc, l'objectif de l'église de se développer, de croître vers la maturité, vers la plénitude de Christ. Mais comment ça va se faire? Qui va faire ce travail? On se dit, ah oui, ça doit être ces gens spéciaux dont Paul nous a parlé. C'est le travail des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs. Ah bon? Écoutons ce que Paul dit dans le texte. Verset 12, « Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. » Qui fait le travail de construction? Les membres du peuple saint. C'est-à-dire nous, les chrétiens. Quel est le rôle de ces dons? Ces personnes, c'est de nous équiper, de nous rendre aptes par ces ministères de la parole, nous rendre aptes à faire notre service, et c'est par ce service que l'Église sera construite. On peut dire, les responsables d'Église, c'est comme des entraîneurs, c'est comme des coachs. Ce n'est pas eux qui vont aller sur le terrain et jouer à la place de l'équipe. Mais ils sont là pour entraîner, former l'équipe, pour que l'équipe joue bien ensemble, pour que chacun ait son rôle. Et donc, tout ce que nous avons vu dans ces versets, ces objectifs, concernent l'Église dans son ensemble. Pas seulement la vie spirituelle de chaque membre. Les objectifs de l'Église ne se limitent pas à la vie spirituelle de chacun de ses membres. Mais comment l'Église fonctionne ensemble, comme un corps, comme une équipe? Paul le dit aussi. Comment ça va se faire? Qu'est-ce que l'équipe est censée faire? Verset 15. Au contraire, donc non pas comme des petits-enfants qui croient n'importe quoi. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. Comment grandir vers Christ en tant qu'Église? On dit en exprimant la vérité dans l'amour. Parfois, ce verset a été mal compris, comme quoi on a le droit d'aller vers quelqu'un et lui dire la vérité. En amour, bien sûr, mais la vérité, en comprenant, c'est la chose qui va blesser. Voilà, nos quatre vérités, ce qu'on a envie de dire à cette personne, dites cela, mais avec amour. Mais quelle est la vérité? Paul a déjà parlé de... Vous avez entendu la parole de vérité, chapitre 1. C'est la vérité de l'Évangile. C'est cette vérité que nous avons à nous exprimer les uns aux autres dans l'Église, d'encourager, peut-être reprendre avec douceur si nécessaire, mais dire cet évangile les uns aux autres, dans nos échanges, pour qu'ensemble nous puissions grandir vers le Christ. C'est ça l'image que Paul donne de l'Église qui se développe, qui se construit. Et donc face à ces versets, on peut réfléchir à notre manière de concevoir l'Église, comme Sonia et Richard au début. Notre société est très individualiste. On a tendance à mettre l'accent sur notre relation personnelle avec Dieu, ma croissance spirituelle personnelle, ma vie de prière, ma compréhension de la Bible, mon témoignage envers mes amis. Ce sont des choses importantes, mais si chaque chrétien cherche à grandir personnellement, la vision de Paul est d'autant plus grand et plus large, c'est que la croissance de tout le corps, dans son unité, dans sa maturité, cela doit nous concerner. Parce que j'ai mon rôle à jouer si je fais partie de ce corps. On peut se poser la question, si je suis chrétien, est-ce que je cherche la croissance dont Paul parle ici? La croissance de l'Église, de mon équipe? Ou est-ce que je suis simplement focalisé sur ma petite vie spirituelle à moi, sans considération pour les autres? Est-ce que je désire voir cette Église comme un tout qui s'édifie, qui est en croissance dans la foi vers l'unité, vers la maturité, pour être mûr, pour être solide et pour être protégé contre ces vents, contre ces vagues? Donc, pour résumer cette partie, Paul nous dit « Conservons l'unité que nous avons en Jésus. » Jésus qui a fait des dons de certains à son Église pour équiper l'ensemble, chacun de nous, à jouer notre rôle pour qu'ensemble l'Église grandisse à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. Et je termine sur ce verset 16. C'est de lui, de Christ, que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour. Sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu. Quelles sont les articulations? Ce sont les relations entre les membres pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties pour que cette Église fonctionne comme un corps, comme Christ l'a voulu. Un petit moment de silence et de réflexion, et puis je vais prier. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour ton Église qui est notre Église. Et nous voulons que notre compréhension de qui nous sommes, de ce que nous faisons le dimanche et à d'autres moments de la semaine, que cette compréhension soit façonnée par ta parole qui nous surprend parfois. Pardonne-nous de chercher cette attitude qui convient aux membres de ton peuple. Donne-nous cette humilité, cette douceur, cette patience de nous supporter les uns les autres avec amour. Donne-nous le nécessaire pour faire cela et aide-nous à faire l'effort que tu nous demandes ici. en appuyant sur l'action de ton esprit en nous. Et pardonne-nous de voir la beauté de ce corps qui se développe, cet édifice qui se construit pour être de plus en plus ce que tu veux qu'elle soit. Aide-nous à jouer notre rôle. Montre-nous ce que ça veut dire d'exprimer la vérité de l'Évangile dans l'amour, les uns aux autres. Père, nous voulons vivre cela. Et nous te demandons de nous aider. Continuer à agir en nous et à travers nous pour que nous avancions vers l'achèvement de ce beau projet divin. Et c'est au nom de Jésus, ton Fils, que nous prions ces choses. Amen.
Amen.